Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
15e podcast cyclocross cette saison, et c'est peut-être le plus important parce que c'est celui du mondial. Juste avant Tabor, on est à quelques jours du championnat du monde avec la Dream Team, avec celui qui a fait le conduit la semaine dernière et du coup sur la lancée, il l'a refait cette semaine. Alors j'espère que contrairement à la semaine dernière, Steve, le conduit n'est pas bâclé à la fin.
Et surtout que je me barre pas au bout d'une demi-heure, parce que malheureusement j'ai dû me barrer au bout d'une demi-heure la semaine dernière. Le conduit a été fait en bonne et due forme, avec un retour sur Rugger Ride qui me paraît important, mais surtout ce cap sur Tabor. On est pressé d'être au championnat du monde, effectivement, c'est la course à ne pas rater. Et je pense que... Pourquoi il rigole?
Il y a Gilou qui vient de gueuler.
Ah, mais c'est bon, vous m'entendez, mais ça marchait pas. Bon, pardon.
Ah, bah là, ouais, ouais, quand même. En fait, il y avait Steve. Il y avait Steve qui était en train de se présenter au cas où tu n'entendais pas.
Bon, ah, écoutez, pour me présenter, Gilou, comment as-tu trouvé mon conduit?
Ah, très bon conduit, mais je ne ferai que pas aujourd'hui parce que j'ai l'impression que il y a Jérémy devient un fou, il en perd ses cheveux. Enfin, oui, c'est bon, j'en
sais rien. Donc, précédé
Anthony
ce week-end.
Anthony est là aussi. Comment ça va, Anto?
Ah, écoute, ça va très bien. Ça démarre très très fort quand même. Là, on a fait 4 minutes. Ouais. Mais sinon, ça va très bien. Et comme l'a dit Steve, et comme tu l'as dit aussi, oui, très très excité, championnat du monde. Même si, quand on regarde un petit peu, nos pronostics, voilà, il y a quand même des trucs qui sont pour moi plutôt clairs. Mais bon, hein, on l'a dit, c'est un jour de championnat, tout peut se passer. Mais non, très excité par le championnat.
Anthony, c'est ta deuxième apparition avec Sadé Rail de la semaine après le quiz. Alors, on ne dévoilera pas ce qui s'est passé, évidemment, mais on envisage de te faire signer un CDI, sache-le, pour la saison prochaine.
Ah, mais non, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Donc.
Non, on a dit qu'on ne spoilait pas. Voilà. Mais on n'a pas dit qu'on n'en parlait pas. Il faut un petit peu faire la promo. Ça va sortir en fin de semaine. Voilà, vous trouverez ça sur YouTube. Et puis le quatrième larron ce soir, c'est Olivier. Alors, Olivier, il a bossé. Olivier, tu nous as préparé une petite surprise, une revue de presse, des déclarations des uns et des autres, c'est ça?
Oui, oui, oui. Bah, écoute, comme aujourd'hui, j'avais congé, je me suis dit, je vais bien préparer ça.
Comme Jérémy. Moi, j'avoue, cette semaine, j'ai fait un peu le passager clandestin. Steve a dit, je fais le conduit. Je lui ai dit, vas-y, fais-le. Donc, je prends la première question de Steve Chenel. Retour au Gerride. Donc, on va revenir sur ce qui s'est passé, évidemment, dimanche avec la victoire de Mathieu Van Der Poel. Steve, tu as mis Van Der Poel, victoire logique, mais pas écrasante. Et pourtant, on a quand même l'impression qu'il a fait un petit peu ce qu'il voulait.
Bah oui, non, mais effectivement, alors on s'attendait tous à ce que sur son parcours fétiche, il mette une grosse peignée dans la partie montante et qu'il sorte seul. Et finalement, on s'est rendu compte lorsqu'il a mis sa peignée que Thibaut Nice avait réussi à l'accrocher. Je m'étais dit qu'il allait mettre le double effet qui se coule, le fameux double accélération de Van Der Poel, mais il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait, je pense, parce qu'il était à fond, tout simplement. Et il a dû se contenter, finalement, d'attendre à nouveau le dernier tour pour sortir et s'imposer. Alors, oui, bien sûr, victoire logique, c'est sur son circuit, comme je l'ai dit, circuit fétiche. C'est vrai qu'il n'a pas écrasé la concurrence, mais honnêtement, il sortait de stage, il était fatigué, il n'était pas saignant. J'ai envie de presque dire que c'est très très mauvais signe pour Tabor pour ses adversaires.
Ouais, c'est très mauvais signe. Anthony, est-ce que tu
ouais,
as
y a
suivi
le
la
patron qui
course?
est là, fais gaffe.
Ouais, alors j'allais dire attention, je passais le bonjour au patron, hein, Johan Tritz, en personne qui est là. Bonjour
Salut,
patron.
Patron. Bonjour patron.
Il vérifie que tu ne spoiles pas le quiz.
Non, non, mais je ne spoile pas, moi je suis professionnel.
Merci.
Enfin, tu le sais.
Oui.
Je suis David de Steve. Alors oui, il rentrait de stage. Moi j'ai envie de dire que. Bon, je pense qu'il a aussi un petit peu joué. Et on en parlera dans la course femme. Je trouve qu'ils ont un petit peu peut-être, c'est peut-être une façon aussi d'enlever un peu de pression entre guillemets de leurs épaules en faisant genre voilà, bah je suis pas finalement si fort que ça parce que pour moi il est quand même une jambe au-dessus et alors oui Thibaut Nice a bien réussi à le suivre pendant un tour et demi, mais bon Nice avait pas couru la veille, lui il avait couru la veille. Donc il y avait aussi peut-être un petit peu de fraîcheur en moins, mais non, je pense qu'il y a eu du bluff. Moi clairement, je pense qu'il y a eu du bluff de sa part et de la part de Van Empel.
Oui, Van Empel, on y reviendra un petit peu après. C'est genre
Suivons le conduc.
Exactement. Gilou, je sais pas où t'es. Je sais pas si tu peux vraiment parler au milieu du bouchon. C'est bon.
C'est bon. Tu m'entends très bien.
Ah bah très bien, très bien.
Eh ben on avait peur avant cette avant de ne pas avoir de médaille avant, on a encore plus peur maintenant. c'est pas top, non, mais je suis d'accord avec Steve et avec Anto. Bon, il est en garde sous la pédale, il était chez lui, il savait qu'il allait gagner, il n'avait pas poussé trop fort non plus. Bon, qu'est-ce que tu veux dire d'autre?
Ben, on peut revenir déjà sur la performance de Thibaut Nice et je vais demander à Olivier de nous relayer un
petit
peu.
Ah, il a dit des choses. Vas-y,
ses déclarations.
Dis-nous, parce qu'il a dit pas mal de choses dans la presse.
Vas-y, Olivier. Visiblement, Thibaut Nice s'est exprimé cette semaine.
Oui, moi, je voudrais d'abord, avant, revenir sur la, entre guillemets, sur la course de Mathieu. Moi, je pense quand même qu'il n'a pas joué comme les autres fois. Hein, parce que, en général, ça, je pense que Steve pourra confirmer, c'est très rare qu'entre Cador, on s'attaque lors des changements de vélo. Et donc la course avant Augurate, on a vu Mathieu placer son attaque au moment où Ventoux Renault changeait de vélo. Enfin, c'est pas Mathieu qui fait ça, c'est pas quelqu'un qui est serein qui fait ça. On s'attaque entre guillemets à la régulière sur des crosses, même si. Mais là, j'avais trouvé ça un peu limite. Et honnêtement, j'avais trouvé que Ventoux Renault, qui terminait seulement à 16 secondes, s'il n'attaque pas à cet endroit-là, ça peut peut-être arriver à deux, quoi. Bon, évidemment, avec une victoire de Mathieu, mais et le lendemain, j'ai pas non plus été super convaincu non plus. Alors, c'est vrai qu'il y a le stage, et que Mathieu espère, donc il a dit dans la presse qu'il espère comme une espèce d'effet de surentraînement, enfin, un effet post-entraînement, donc vraiment pour Tabor. Mais honnêtement, moi, je ne l'ai pas trouvé super saignant, quoi. Enfin, je ne l'ai pas trouvé comme d'habitude et je n'ai pas l'impression qu'il jouait. Donc voilà.
Après, c'est clair, il n'était pas saignant, mais un Van Der Poel à 90%, allez, à 95%, il est quand même une dent au-dessus de tout le monde et c'est ce qui lui permet quand même de s'imposer. Là où effectivement, la différence de Van Der Poel par rapport à ses adversaires, c'est qu'il est déjà passé en mode routier. Ça me fait mal de dire ça, mais là, Van Der Poel, clairement, le championnat du monde de cyclocross, c'est un passage, j'avais presque envie de dire, le lancement de sa saison route. Alors, ça me fait chier parce que c'est pas un pur cyclocrossman qui va devenir champion du monde, parce que Van Der Poel, bon, on ne sait pas trop ce qu'il est. Hein. Il est vététiste, crossman, routier. Je pense que même s'il était violoniste, ce serait le plus grand
Lamborghini aussi.
Représentant Lambeau. Après, oui, il est moins, j'ai envie de dire, il est moins volant qu'en tout début de saison. Mais parce que justement, il s'entraîne comme un routier, il fait du volume. J'avais mon ami Charles Planet qui était à Calpe la semaine dernière et qui l'a vu à 16h et quelques, il est encore sur le vélo. Quand tu t'appelles Mathieu Van Der Poel, tu pars les matins, soit à 9h, soit à 10h. Donc si à 16h, tu es encore sur le vélo, c'est que tu as fait 6h ou 7h. Donc on ne fait pas ça à moins de 10 jours des championnats du monde. Donc je pense sincèrement qu'il va faire une semaine de récup, ça va lui faire le plus grand bien. Il va arriver sur Tabor avec un petit peu de fraîcheur, mais il est quand même une dent au-dessus. Et je pense que pour la concurrence, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué.
Ça va être très compliqué.
Steve, est-ce que la concurrence y croit? Je suis même pas certain qu'ils aient des espoirs de détrôner Van Der Poel, à moins d'une chute, à moins d'une casse.
Ben, je me suis posé la question et Tonio, je pense, pourra aussi intervenir là-dessus parce que le jour des championnats du monde, contrairement à toutes les autres courses, la deuxième place à la troisième place, elle compte. Quand tu es en Coupe du Monde, un Michael Van Turenhout, par exemple, la veille du côté de Hameu, a tenté de suivre Van Der Poel, quitte à exploser. sur un championnat du monde, est-ce que quelqu'un va même essayer de tenter le suivre? Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième place à reprendre, il y a une troisième place à prendre. Et je pense que Olivier, tu pourras réagir peut-être sur les propos qu'a tenu Thibaut Nice.
C'est ce que j'allais faire. Ouais.
Et Thibaut Nice a dit « Je vais au championnat du monde pour une médaille ». Donc, ça veut dire que, en gros, si Van Der Poel attaque, il va falloir qu'il joue tactique pour gagner une médaille, médaille d'argent, médaille de bronze. Et effectivement, il ne va pas être bousculé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tonio. On a fait les championnats du monde. Quand tu es au départ d'une Coupe de France, il n'y a que la gagne qui compte. Coupe du monde, tu n'as que la gagne qui compte. Par contre, championnat du monde, deuxième et troisième, tu signes en général.
Je suis d'accord avec toi. Et moi, le seul qui aurait pu un peu faire peur sur le papier, au vu de ce qu'il a montré, et d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé la semaine dernière, j'avais dit j'ai hâte de voir Nice après Benidorm, parce que Benidorm, il avait déjà pas trop mal marché. Mais du coup, avec ses déclarations, je pense qu'au fond de lui, il sait que Van Der Poel est pas prenable, sauf vraiment si voilà il y a un coup de bambou en début de course et que le fait de course fait que. Mais tu vois, et j'ai peur que ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, c'est qu'on ait une course un petit peu comme du côté de Pontchâteau. D'ailleurs, quand on reprend un peu le circuit, quand on y repense, c'est quand même des circuits qui se ressemblent un petit peu. Et que j'ai peur que VDP en pose une dès le début. Prennent 20-30 secondes et puis derrière, on fasse la course en fait pour la place de deux. Et alors autant du côté de Pontchâteau, ça avait souri aux Belges et notamment avant de Tourenhout parce qu'ils étaient en plus en surnombre. Mais là, du coup, je pense que les Belges vont certainement se regarder dans le blanc des yeux. Avant de Tourenhout revient très très fort, revient même bien. Nice, ça fait deux week-ends qu'il nous montre qu'il est pas loin d'être dans le coup. N'oublions pas Ezerbit qui est quand même pour moi le plus régulier. Donc j'ai peur que avec les déclarations tu vois de Nice qui dit je viens pour une médaille, en gros il dit qu'il vient pour la place de 2 et 3. Alors après peut-être comme je l'ai dit un fait de course en tout début de course, mais on n'est pas à Benidorm, mais même si Van Der Poel a une galère au début, il y a les planches en faux plat, il y a les escaliers, enfin il y a plein d'endroits où Van Der Poel pourra faire parler sa giclette et pourra remonter du monde assez rapidement.
Et puis Tonio, même si Van Der Poel est 30e au bout d'un kilomètre de course, est-ce que quelqu'un va oser tirer une balle comme ça?
Personne ne le fera, les gars.
Parce que même avec une minute de retard à la fin du premier tour sur Tabor, il les reprend. J'ai très très peur de ce scénario, je vous le dis. Il y a personne. Le seul qui serait tenté de le faire et qui devrait le faire, c'est Ezerbit. Ezerbit, il a gagné la Coupe du Monde, il est champion de Belgique. C'est lui le meilleur cyclocrossman de l'année pour moi. C'est le seul qui devrait tenter. Mais je suis même pas sûr qu'il le fasse.
Sur Ogreit ou Ham, je peux te dire que s'il tombe ou bien s'il a une crevaison, il ne revient pas. Moi, je suis sûr qu'il ne revient pas sur Nice et sur Van Tourenhout. Moi, j'en suis pas très sûr. En fait, ce qu'il explique, c'est que là, il était en récupération de son stage et qu'il espère pour Tabor ce qu'on appelle une super compensation suite à son stage.
Ouais, mais Olivier, même comme l'a dit Steve tout à l'heure, même un Van Der Poel pas à fond. Et moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Steve.
Moi, j'ai pas eu.
Il est moins saignant. Non, mais il est moins saignant depuis. Ce week-end et peut-être puis Benidorm, parce qu'il fait du volume. Parce que, comme l'a dit Steve tout à l'heure, il est passé en mode routier et donc du coup, il a vu qu'il avait de toute façon une jambe au-dessus. Donc maintenant, il se permet de faire du volume et des grosses semaines. C'est pas qu'il néglige pas un peu la concurrence, mais presque, j'ai envie de te dire.
Il se permet de se dire,
c'est bon, de toute façon, je fais ce que je veux quand je veux. Donc là, je vais mettre des bornes parce qu'il faut que je mette des bornes parce que les autres routiers, les Van Aert et autres, ils sont en train de faire des semaines à je ne sais combien d'heures au soleil. Et du coup, lui, il est en train de se dire, tu vois, je pense pas qu'il ait de regrets parce qu'il veut le titre de champion du monde. Mais du coup, tu vois, il a un peu le cul entre deux chaises, comme j'ai envie de te dire.
Oui,
pour moi.
C'est pas faux.
Ouais. Gilou, tu nous envoies des messages en off, je suis pas d'accord. Mais t'es pas d'accord avec quoi?
Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il revienne si facilement sur Tabor. Pourquoi? Je vous explique. Mon point de vue, parce que s'il lui arrive quelque chose au départ, ce qui n'est pas impossible, parce qu'on a déjà vu que Mathieu a des problèmes au départ, Tabor, c'est un circuit où il y a 60 virages sur le parcours. Bon, il est un peu exagéré, mais je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de virages. Et s'il lui arrive un problème, il peut assez vite être englué dans le trafic. Et là, ça peut être chiant pour lui, parce que je pense, contrairement à Steve, que s'il lui arrive quelque chose, il y en a qui vont mettre des peignées et qui vont décider d'y aller. Et au final, je pense que tu l'as dit, ils orbitent, même Thibonet, s'il est capable d'essayer, les Belges savent qu'ils n'auront pas le choix s'ils veulent gagner. S'il y a un problème pour Mathieu, il faudra y aller. Là, les Belges peuvent s'entendre et donc essayer de reculer Mathieu le plus tard possible. Je parle juste dans l'état où il y a un problème pour Mathieu au départ.
Il y a un problème.
Je pense qu'il peut être englué dans le trafic parce que ça va tourner beaucoup, parce qu'il y a des endroits où ça va faire un peu comme quand tu arrives dans les monts sur le Tour des Flandres, ça peut ralentir très très fort. Donc, et qu'il soit dans le fond de l'élastique. Donc voilà, c'est juste s'il a un problème au départ.
Tonio, dégomme-le.
Non, je vais pas le dégommer. Non, mais il y a un truc dans la phrase qui m'a fait rire, c'est que si les Belges s'organisent.
C'est ça, impossible.
T'as déjà vu les Belges s'organiser, Gilou. Hein, ouais. Rappelle-toi, au championnat d'Europe, au col de Vam, là-bas, ils se sont roulés sur la gueule, ils se sont fait tréfler par Van der Haar. Rappelle-toi,
quand même, hein.
À Pontchâteau, oui, bah alors ils ont eu de la chance que c'était Andy Torrenhout qui a pris le truc, parce que rappelle-toi quand Nice a voulu rouler, il est venu se faire tasser par Izerbit, je crois d'ailleurs, ouais. Donc, c'est ça aussi. Qui va prendre le lead
Van Tourneau, sa saison est réussie avec son maillot de champion d'Europe. Il voit qu'il y a un problème, il se dit bon, je l'ai fait au championnat d'Europe. Bon, let's go, j'y vais. J'essaye.
Non, on sait jamais. Elle n'est pas réussie sa saison, Gilou. Il a sauvé les meubles, mais la saison, elle est quand même terne.
Tu penses qu'il aurait préféré gagner deux Coupes du Monde et pas avoir ce maillot? Je suis pas sûr.
Non, mais il y a l'impression générale. Van Tourneau, il a gagné le championnat d'Europe, pas par hasard.
Est-ce que j'ai le droit de pas être d'accord avec vous?
Oui. T'as le droit de pas être d'accord. Mais sa saison, elle est quand même pas à la hauteur des précédentes.
Non,
mais quand tu pars avec un maillot, c'est quand même important, je pense.
Après, moi, j'aimerais bien savoir si Sven Van Tourneau, le sélectionneur de l'équipe belge, a parlé Olivier dans la presse ou pas du tout.
Écoute, oui, mais alors il a dit des lieux communs. Donc, comme dans son équipe, il a autant de Néerlandais que de Belges, même un peu plus de Néerlandais. Donc, pour lui, ce qu'il veut, c'est que des membres de son équipe aient des médailles. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'il dit pour la course, bah, je veux dire que selon lui, ce sont les poutres qui vont jouer vraiment, enfin, qui peuvent être déterminantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont placées à un endroit stratégique en bas d'une montée et que les coureurs techniques pourraient en profiter pour prendre de l'avance. C'est tout ce qu'il a dit. C'est un peu...
Ouais, il a noyé le poisson.
Ça, c'est clair que les mecs qui sautent très bien les planches, et Van Der Poel en fait partie, et Van Der Poel, quand il va te passer les planches à 25 dans le faux plat, qu'il va en mettre dedans après aller à la deuxième planche, il va en mettre partout.
Bah, il semblerait, Tonio, que c'est là qu'il faut que tu te mettes parce qu'il semblerait qu'ils veulent tenter de passer les deux en même temps.
Je t'ai entendu la tenter du côté d'Ogeride, je t'ai entendu la tenter en live.
Ouais, il recycle ses blagues. Bah, écoute, j'osais pas le dire, mais il l'a fait en direct.
Je me mettrai à cet endroit pour toi et je te ferai des petits slow motion.
Merci,
René. À cet endroit, arrive là dans les 8h30 hein, du matin, à mon avis.
Mais c'est faisable.
C'est quelle heure ça?
8h30.
Alors 8h30,
c'est un quart d'heure après 7h moins ou après 8h moins quart, quoi.
Bon, ouais. La suite du conduit, Steve. On va s'éloigner un peu de ta bord pour revenir quand même sur la prestation d'Izerbit qui remporte le classement général de la Coupe du Monde. Est-ce que pour toi c'est le plus beau des vainqueurs?
Oh oui. Très clairement, c'est le plus beau des vainqueurs. Déjà, c'est quasiment le seul. Je crois qu'ils sont que 5. J'ai vu la stat passer à avoir fait l'intégralité de la Coupe du Monde. Il fait partie de ces coureurs qui ont fait l'intégralité de la Coupe du Monde, qui ont pris part en tout cas à chaque départ. Il y a une seule manche où il n'a pas marqué de points parce qu'il a abandonné. Non, c'est un bel ambassadeur du cyclocross. Il fait tout. Il fait la Coupe du Monde, il fait le X2O, il fait les Etias, il fait les Super Prestige. Je crois que vraiment, si je dois décerner la palme du plus... Ah, du coureur, j'allais dire le plus beau coureur, du coureur le plus passionné de cyclocross et qui vit que de ça, pour moi, c'est Izerbit. Ouais. C'est un beau vainqueur de Coupe du Monde.
Qu'en pensent les Belges?
Comme Céline.
Moi, si je peux revenir, ce que j'aime bien chez Izerbit, c'est un bête truc. Hein. Mais j'étais sur 3-4 cyclocross et quand tu les croises, Tous les gens gueulent les noms des cyclocrossmen. Et Izerbit, c'est celui qui réagit le plus, qui fait un sourire au gars. Quand tu vas faire une photo, lui-même, quand il est en train de faire du rouleau, il lève sa tête, il fait un sourire. Il est vraiment apprécié de tout le monde. Et ça joue aussi beaucoup dans l'affect. On sait bien qu'il y en a qui clivent plus. Hein. Tonnard, c'est pas apprécié par tout le monde. Enfin, voilà. Izerbit, j'ai l'impression qu'il représente le cyclocross, comme l'a dit Steve. Et c'est vraiment le plus beau des vainqueurs. Et c'est le bon gars, le bon pote Elise Urbit, enfin en tout cas c'est ce qu'il donne aux spectateurs. À l'intérieur c'est peut-être pas le cas, c'est bien qu'avec Swag par exemple c'était pas la grande entente.
Ah bah ne dis pas ça parce que Steve était pas d'accord dimanche, donc visiblement ça se passait bien selon Steve.
J'ai pas dit que ça se passait bien, j'ai dit qu'ils étaient coéquipiers.
Non, t'as dit que l'entente était bonne, que c'était moins bien qu'avec Ventura et Nantes, mais qu'il n'y avait pas de problème.
Bah c'est ça, c'est pas...
Allez, réponds-lui.
T'as dit que t'avais bu des bières avec eux à Waterloo il y a 3-4 ans.
Exactement, j'ai bu des bières avec eux le soir de la Coupe du Monde, ils étaient tous ensemble, hein, Etherbeat, Swag et Ventura et Nantes. Hein,
c'est vrai que dans les manœuvres, mais ça c'est des trucs qu'on se fait aussi nous, des c'est idées, hein, on n'est pas dans les petits papiers, on voit qu'il y a plus d'affinité entre Ventura et Nantes et Etherbeat, c'est sûr. Parce qu'en plus, on les voit partir en stage et autres. Après, c'est vrai qu'on avait vu des trucs un petit peu à l'époque où Swag était à la Powell's. Bon, c'est vrai que des fois, en course. Mais quand on y repense, si on regarde ce qui se passe du côté de la Baloise ces derniers temps, dans ces cas-là, on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'entente du côté de la Baloise, parce qu'ils se roulent tous sur la gueule. Donc,
ils se font des crasses même entre eux.
après Ventura and Nantes, ils s'entendent bien avec tout le monde. Donc,
oui, mais plus avec Etherbeat. Tu les vois bien quand même. Les Rocco sont ensemble, les stages sont ensemble, ils partent tous les deux.
Mais
tu vois.
C'était pareil avec Swick quand Swick était là.
Ouais. Ouais, les stages, j'ai pas de souvenir des stages. Mais bon. Pour revenir rapidement sur Etherbeat, oui. je suis content pour lui parce que c'est vrai qu'on lui a pas mal cassé dessus sur le dos les autres années. On lui disait, ouais, Isaiah, Etherbeat, tout le monde était là en train de dire, ouais, dès que les autres arrivent, on voit plus Etherbeat, c'est un coureur de début de saison, il devient transparent. Alors oui, c'est sûr, bah, il fait avec, même si cette année, je pense qu'il a passé un petit cap quand même. Mais comme l'a dit Steve, il respecte vraiment le truc, il fait tous les classements. Et ouais, c'est une belle récompense pour lui. En plus, il a le maillot de champion de Belgique cette année, donc je pense qu'il en est très très fier. Et c'est une belle récompense aussi pour lui. Mais vraiment, vainqueur de la Coupe du Monde, je pense que c'est un beau vainqueur de Coupe du Monde.
Mais après, il n'a jamais battu. Enfin, on dit qu'il s'éteint quand les autres arrivent.
Il les a pas battus, si tu veux, mais il a quand même.
Il a battu une fois. Il a battu quand Mathieu Van Der Poel fait ça.
Ouais, mais Zolder, il a joué un peu avec Wout. Enfin, voilà, toi, il a pas. Et puis, il y a été quand même derrière. Il a essayé d'y aller quand même quand il y a eu des bagarres. Bon, c'est vrai que Wout n'était pas à son niveau cette année, mais même derrière Mathieu, des fois, on l'a vu essayer des choses et pas complètement se démotiver comme je trouvais les autres années.
Très bien, ce sera le mot de la fin en ce qui concerne la Coupe du Monde chez les garçons, parce qu'il faut qu'on parle des dames aussi. Alors, je vous ai trouvé un petit peu sévère sur Mathieu Van Der Poel, que vous avez trouvé moins saignant. Comment est-ce que vous analysez la performance ce week-end de Femme Van Empel? Steve, je vais te donner la parole, puisque c'était toi, évidemment, au com.
Femme Van Empel, pareil, hein, je l'ai trouvé archi dominante, hein, que ce soit du côté de Ham ou du côté de Hoogeride. Après, c'est vrai que je trouve qu'elle a pris des risques du côté d'Hoogeride. Elle aurait pu se détacher, je pense, de Katavas et de Lucinda Brandt. Mais j'ai enfin retrouvé la Femme Van Empel du début de saison, techniquement déjà. Depuis sa pelle en Espagne, où elle avait pris un Valdingue, je pense qu'elle s'était bien amochée quand même, hein, la copine. On la retrouve engagée. Elle met les épaules. Elle y va, elle regarde bien la trajectoire. Donc déjà techniquement, je crois que sa gamelle est derrière elle. Et puis physiquement, je crois qu'elle a montré qu'elle était en forme. Non, elle a fait une belle Coupe du Monde, une belle manche à âme. Je crois que ça y est, elle est en confiance en vue de Tabor. Au contraire de la petite Peters. Mais voilà, après on connaît Puck Peters. Hein, il suffit d'un jour, il suffit d'être bien. Mais non, Van Empel, on a retrouvé, je pense, la grande Van Empel.
Tout le monde est d'accord avec ça?
Oui. Oui, elle a été stratosphérique. Honnêtement, j'ai eu peur dans la dernière montée parce que Katablanca, c'est quand même une bonne coureuse de route. Et je me suis dit, attention, elle pourra peut-être la battre. Et puis, quand elle a démarré, Non, là, c'était très, très, très costaud. À la limite, je pense que Van Empel, à contrario de Van Der Poel, a vraiment joué. Ne s'est pas mis dans le rouge exprès pour ne pas en faire de trop ou tomber en prévision de la Coupe du Monde, quoi. Et donc je pense qu'elle était vraiment ultra dominante.
Ouais. Est-ce que vous avez entendu son interview d'après course où elle a raconté que la victoire potentielle samedi à Tabor ne serait que la cerise sur le gâteau et que la saison était déjà réussie?
Non,
elle a bien joué la flûte. Là, elle a pris du violon, elle a accordé et elle a bien joué du violon comme ça. Elle nous a fait un Vivaldi les 4 saisons. Merci, au revoir et bon week-end.
Non, mais apparemment, elle a fait 6 ans de pipeau et elle voulait justement voir si ça marchait bien le pipeau. Ouais,
ouais, là, 10 sur 10 en pipeau, là, elle sifflote.
Non, non, mais là, évidemment qu'elle a noyé le poisson. Et évidemment que la semaine prochaine, si on fait un space, que Van Empel n'est pas championne du monde, désolé les gars, mais je le dirai, Van Empel, sa saison, elle n'est pas terrible. Elle n'a pas gagné la Coupe du Monde, on le rappelle, c'est Alvarado. Elle n'est pas championne des Pays-Bas, on le rappelle, c'est Lucinda Brand. Si elle n'est pas championne du monde, sa saison est ratée. Faut appeler un chat un chat. Donc de là à dire que c'est la cerise sur le gâteau, si j'avais été à la place de l'intervieweur, je pense que j'aurais posé une petite question rebond derrière pour savoir si justement... vous n'êtes pas en train de noyer le poisson, Fem?
Est-ce que vous ne serez pas en train de pipoter, Fem?
Mais quel intervieweur tu ferais, Steve? Décidément, t'as toutes les qualités.
Alors, déjà, le conduc.
Il fait le conduc. Il est là, le producteur, maintenant il fait les interviews.
Comment il est, mon conduit?
Non, mais moi je suis clairement d'accord avec Steve. Et moi je pense que le journaliste aurait dû lui répondre, aurait dû lui demander.
Vous avez gagné quoi cette année?
Ouais, c'est vrai, parce que quand on y repense, alors oui, elle a gagné pas mal de crosses, oui, c'est sûr, même beaucoup, mais les classements, elle a pas fait les classements, elle a gagné aucun classement, sauf si je dis une bêtise, mais
Non, tu dis pas de bêtises, Antonio.
Ah si, l'X2O, elle doit le gagner, je pense. Il est pas fini, mais elle va le gagner.
Elle ira pas aux manches de février, apparemment.
Ouais, c'est pas sûr, hein. Elle a 6 sur 6 pour l'instant.
Même avec je ne sais combien.
Avec les pénalités selon qui gagne, ça peut le faire.
Ouais, mais c'est vrai que Steve est pas bête du tout, et je le rejoins. Oui, si elle passe à côté de son championnat du monde, elle aura pas de maillot.
Elle aura les petits canards. Hein.
Ouais, elle aura une tripotée de canards. Ouais, mais non, c'est vrai.
Offert par Jérémy Sarakian.
Moi, je prends des tirs, j'ai rien demandé. comment vous la voyez, la course des dames, un duel avec Peters ou Lucinda Brand peut se mêler aussi à la bagarre d'après vous?
Je prends la parole parce qu'après j'y vais, je vous dis au revoir, je vais voir le standard de Liège.
Tu vas où?
Comme je l'ai dit, je le redis, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense qu'on est quand même vers un circuit où ça peut rester groupé longtemps et où il peut y avoir vraiment une course intéressante. Donc je pense que c'est pas gagné d'avance pour Femme. Elle va devoir être très très bonne techniquement. Elle va devoir montrer qu'elle est dominante comme elle a été cette saison. Attention, elle est aussi tombée. Donc attention, s'il y a des endroits techniques où elle perd un peu de confiance, ça peut être dangereux pour elle. Donc attention, et je voulais juste noter la superbe course quand même au Grail de Marion Norbert-Ribérol qui nous rentre le top 30 avec une 29e place quand même à noter pour Marion. Voilà, je vous laisse terminer bien.
Tu vas où, Gilou?
Tu vas où?
Il va au match de foot.
Je vais voir le standard. Et mon prono, podium de Thibaut Nice et Venturini hors top 10. Ciao.
Il est toujours là.
Attends, mais le standard de Liège, ils ont une équipe de foot, eux. Connais pas.
Il est parti, il a plus envie de te parler. Et tu veux, je te dis, je pense qu'il a bien raison.
De ne pas me parler ou de supporter le standard de Liège? Non, parce qu'entre toi qui supporte Lyon et lui Liège, et on est une équipe de losers. Oh, les losers.
Bref, on va dérouler le conduit. Pourquoi les Pays-Bas ne font pas le relais? Tiens, ça c'est une bonne question qui est posée par Steve. Alors j'avoue, j'ai pas la réponse et je trouve ça assez frustrant d'ailleurs de ne pas voir.
Mais c'était pas obligé? C'était obligatoire?
Ah bah ils y vont pas, hein. Alors je sais pas si c'est obligé ou pas, mais il y a pas d'équipe.
Steve, toi qui est à la pointe des règlements.
Putain, t'es un enfoiré, Tonio. Non, je suis une merde en règlement.
Il me semblait que l'année dernière, il y avait eu des histoires justement déjà et qu'il y avait un truc qui était passé en disant que c'était obligatoire.
Bah, moi, là où vraiment je trouve dommage, c'est que c'est faire la promo du cyclocross de faire ce relais. Bien sûr, de faire un tour à fond, c'est pas ça qui va te baiser ta course. Je peux comprendre le risque de la chute. Surtout qu'il y a ce passage de planche où sur un tour, tu te mets la pompe, t'as pas envie de te fracasser la clavette ou autre. Je comprends totalement. Mais tu peux mettre une équipe B et au moins faire acte de présence. Tu sais, il y a des coureurs comme Stan Godry qui est pas pris en sélection des Pays-Bas. Le niveau est trop. À moins qu'il le fasse, Stan, je me dis, putain, un mec comme ça, c'est peut-être une occasion unique d'aller chercher même une médaille. Et je pense sincèrement que c'est vraiment pas bien ce que fait le sélectionneur Ruben De Knecht de pas mettre une équipe nationale. Ouais. Parce que quand on aime le cyclocross, quand on vient du cyclocross et quand on veut promouvoir le cyclocross, alors on s'aligne au départ, même du relais, même si ça fait chier les coureurs.
Mais pour moi, ben moi j'ai la réponse. Hein. Moi je
sais. Ah, vas-y, Olivier.
Parce que moi, pour moi, aux Europes, j'avais déjà dit mon point de vue, mais vas-y.
Ah, en fait, dans la presse, si tu veux, il y a eu un petit communiqué sur le site de la fédération hollandaise et ils ont dit que c'était pour des raisons techniques et sportives. Et alors, le petit mot en dessous, c'était, enfin, comme j'ai traduit, donc il a été décidé à ce que tous les coureurs arrivent le plus frais possible au départ des courses individuelles. Point à la ligne, c'est tout. Ouais. Donc voilà, et moi, je suis un peu d'accord avec Steve, bon… un relais sans les Pays-Bas, c'est quand même la nation pour l'instant phare. Ouais, ça fait pas sérieux, ouais.
Mais pour moi, il y a un problème de positionnement et je l'avais dit. Alors on avait dit, j'avais donné des idées, mais qui n'étaient pas très viables pour les Europes. Mais pour moi, il y a un problème de placement avec ce truc-là, en fait.
Oui, oui. Bah oui,
le fait que ça soit avant les courses, c'est pas bon parce que, comme l'a dit Steve, c'est pas le tour à bloc qui va te mettre dedans.
C'est ça.
Justement, au contraire, ça peut te débloquer. Bon, après, en fonction de certains coureurs, il y en a qui aiment faire des efforts le vendredi, d'autres le samedi, ça c'est différent. Mais le problème, c'est la chute. Et le mec qui a préparé toute sa saison, enfin, qui vise le titre de champion du monde, peut pas se permettre de se mettre une boîte, de se foutre le genou dans le guidon et de se foutre des points de suture, admettons, sur le genou, le vendredi pour la course du dimanche. Donc le problème il est là. Alors après il y a peut-être d'autres solutions aussi, tu vois. Et là le fait que Steve parle d'un coureur qui est je crois pas sélectionné, pourquoi pas mettre les remplaçants dans ces cas-là.
Ben oui.
Tu vois, je sais pas. C'est des idées, mais c'est sûr qu'en plus moi je trouve que c'est vachement visuellement c'est super prenant. Moi j'ai regardé, on a regardé les Europes, on l'avait vu. Il y avait des gens qui filmaient avec des live Facebook. Moi je regardais, c'est super prenant parce que le fait que ça soit pas les mêmes catégories les unes en face des autres. Une fille, un espoir qui part en face, un junior, enfin voilà, ça se revient, ça repart, les gens ils sont à bloc, c'est super prenant à regarder. Et d'ailleurs, on s'était régalé au Mondial l'année dernière, ou même il y a 2 ans, je me souviens plus à le regarder. Moi je trouve que c'est super prenant, mais pour moi le problème c'est le positionnement dans ce week-end de championnat. Et ça fait pareil aux Europes.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais tu veux le mettre où?
Mais je sais pas, tu m'as déjà dit la même chose aux Europes.
Bah oui, bah le positionnement, il pose problème, mais s'il n'y a pas de solution, on va
le mettre. Dans ces cas-là, on le fait pas, alors.
Bah si, il faut le faire. Il faut que les nations jouent.
Mais non,
les Pays-Bas, alors... tu vas pas me dire qu'ils avaient pas un mec à mettre dans chaque catégorie, un mec et une dame.
Il faut reprendre les règlements. Je suis persuadé qu'il y avait un truc l'année dernière là-dessus.
Ils vont prendre une prune.
Il faut appeler Jackie.
Moi, je pense qu'il faut pas le faire la semaine des championnats du monde, des courses individuelles.
Ouais, mais c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Mais du coup, tu fais comment le circuit?
Ça pourrait se faire juste après un super prestige, par exemple. Donc on fait un super prestige le samedi et le lendemain le circuit sert pour la Coupe du monde de relais.
Ouais, mais là tu as toutes les nations qui vont faire un déplacement pour ça. Oui. Pour moi le fait de le programmer le vendredi, c'est pas du tout une mauvaise chose. Le risque de chute fait partie du métier. Si les mecs prennent une pelle à Tabor l'avant-veille de la course, ils auraient très bien pu prendre la même pelle aussi, à Augerride la semaine dernière. Ouais,
puis même à l'entraînement,
pour moi c'est effectivement le fait que les Pays-Bas ont dit pour un maximum de fraîcheur. Ça s'entend, c'est pas le problème. Peut-être qu'il faudrait revoir le règlement et à ce moment-là autoriser de faire venir quelqu'un d'extérieur. Mais par contre, là, moi, je vais être totalement transparent avec vous. Ça va être n'importe quoi parce que nous, l'équipe de France, on va peut-être faire venir, tiens, je vais citer Titouan Perrin-Gagné, champion du monde de VTT Eliminator. Crois-moi, sur un tour, sur 6 minutes, je pense qu'il éclate tout le monde. Il faut que ça reste une spécialité et ça doit mettre en valeur.
Ouais, mais ça après, Steve, tu peux obliger un nombre de participants, tu vois, que tu peux mettre des critères.
Oui, il faudrait mettre des critères. Mais si tu veux, je pense que c'est une belle discipline, c'est une belle promo. Quand on voit les médailles qui sont faites dans les autres sports, quand c'est fait collectivement, je pense que c'est une vraie belle épreuve. Et je trouve ça vraiment navrant que les Pays-Bas ne soient pas là. Ils ont leur choix, ils ont décidé de ne pas le faire, tant pis pour eux. J'espère que la France sera championne du monde, parce que malgré tout, c'est aussi l'occasion de montrer la force du vivier d'une nation. Effectivement, et il faut un coureur de chaque catégorie, et j'espère que la France va être championne du monde.
On l'espère.
Justement, on va passer au sport français.
Sur le papier, c'est jouable. Hein.
Ah, au sens de médaille française. Bah, le relais avait brillé aux Europes, Anto. On avait eu le sélectionneur juste avant. Il nous a dit que c'est une course importante. On y va pour gagner. J'imagine que ce sera la même chose ce vendredi.
Alors, bien sûr. Ouais. Enfin, moi, je n'ai pas eu François, mais l'équipe alignée, elle a de la gueule. Bon, du côté de Pontchâteau, on avait aligné Joshua Dubo qui reprenait tout juste. Là, on a mis David Menu pour l'élite. On va vous rappeler l'équipe rapidement. David Menu, Rémi Lelandais, Aubin Sparfel, Hélène Clausel, Lauriane Durafour, Célia Géry. Donc, quand même,
c'est très costaud. Très costaud.
Ça a de la gueule. Moi, après, bon, dans ce que j'ai un peu regardé, alors c'est vrai que les autres, on connaît des noms dans les autres nations. Je pense que les Anglais vont pas être trop mal. Les Italiens aussi, il faut se méfier des Italiens. Ils avaient pas mal marché du côté de Pontchâteau. Ils ont Viezzi qui marchait fort du côté de
Vainqueur de la Coupe du Monde.
Ils ont Cassasola, ils ont Corvi qui fait pas trop de bruit mais qui marche bien aussi.
Alessandro?
Non, Corvi, Valentina.
Valentina Corvi.
Ah, pardon.
Non, mais il voulait juste faire sa blague.
Mais j'ai compris. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Et puis les Anglais, bien évidemment, avec Ferguson, Backstead, Kay et Cameron Mason. Donc,
On n'a pas cité les favoris.
Et n'oublions pas la Belgique. La Belgique, hein, attention. Hein. Il y a Michael Van Turenhout ou Ward Mubbs. Bon, après, ça ne compte, c'est un peu en dessous quand même. Je pense que les Belges. Bon, ils ont Vandenborg pour le junior. À voir.
C'est un objectif en Belgique, Olivier, avant de reprendre sur les chances.
C'est peut-être la première année où je vais te dire que c'est peut-être notre seule chance de médaille d'or avec les espoirs garçons. Honnêtement.
Ou médaille d'or carrément. Olivier,
c'est
là,
peut-être
sur,
notre
sur
seul
relais.
Oui. Ben, ouais.
Oh.
Non.
Oh. Quand même.
Moi je trouve que l'équipe tient la route. Arthur Vandenbourg, c'est un des meilleurs juniors.
Ouais.
Certes pas au niveau de
les trois
de
derniers
Sparfell,
noms
mais...
les trois derniers noms ouais moi Vandenbourg,
Julie Brewers elle est pas mal
ouais.
Ward Huibs il est quand même à niveau chez les espoirs, il fait partie des cinq meilleurs. Michael on ne le présente plus, et chez les filles quand même Sanekant, elle est bien pour
l'instant. Ouais, mais elle a pas Sanekant sur un tour, elle a pas la giclette de ses 20 ans, tu vois.
Je sais pas,
il y a plein de bac à sable là-bas. Florence
revient bien chez les espoirs, comme Julie Brewers. Non, ça peut être bien.
Ça a bonne gueule. Moi, je ne les mets pas parmi les favoris, mais non, il va y avoir une vraie belle bagarre. Et si Michael Van Turenhout s'est posé candidat pour faire le tour à fond, je pense que clairement, du côté de Sven Van Turenhout, on a envie de faire la meilleure équipe. Ouais.
Mais oui.
Avec Olivier.
Ce qui est bien, c'est qu'en Belgique, il y a toujours un Cador qui y va. Il y a deux ans, il y avait Laurens Weck qui avait fait le tour.
Non, on parle des Cador, Jérémy.
Il en fait partie. Oui.
ça c'était un petit tir gratos pour Anto. On va revenir sur les chances françaises. Évidemment, il y a le relais, mais il n'y a pas que le relais. Il y a surtout les catégories de jeunes, avec les espoirs, avec les juniors. Steve, tu vas reprendre la main parce que tu les connais très bien. Qu'est-ce que ce serait pour toi un championnat du monde réussi pour la sélection de l'équipe de France?
Clairement, chez les juniors, deux titres, hein, que ce soit chez les juniors femmes et chez les juniors hommes. On a Célia Géry, qui est la championne d'Europe en titre, qui, je pense, a fait une bonne préparation et fait partie des favorites. Bien sûr, il y a la petite Tchèque qui va bien, qui sera à domicile, à voir comment ça va se comporter. Mais je pense que Célia peut raisonnablement ambitionner le titre. Et puis, chez les juniors garçons, je crois qu'on a rarement eu autant de coureurs capables d'être champions du monde. On a, dans la sélection française, ils sont cinq. Les cinq peuvent espérer le titre, voire la médaille. Bien sûr, je me mets à rêver et à imaginer un remake de Saint-Vandel, hein, avec Tonio, on y était, avec Clément Venturini qui s'était imposé devant les frangins Doubet. On avait eu un triplé historique. Ce serait assez extraordinaire, mais pour moi, dans ces deux catégories, ça montre que la France, on a le vivier pour ça. Et pour moi, un championnat du monde réussi, ce serait les deux titres. Et à l'inverse, si on n'a pas au moins deux médailles, ce serait un championnat du monde raté.
Vas-y, Anto, prends la suite.
Anthony, désolé, j'arrivais plus à démuter. Non, mais je rejoins Steve et je suis clairement d'accord avec lui. J'ai entendu Olivier bouillir quand il a dit que. Grogner quand Steve a dit que les cinq juniors, oui, les cinq juniors, s'ils courent comme du côté de Pontchâteau, rappelez-vous comment ils avaient fait un peu ce qu'ils voulaient. Oui, clairement. Et j'espère qu'on ne va pas se faire tréfler le titre chez les juniors. Chez les juniors dames, je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Steve, mais oui, la petite Tchèque m'a fait bonne impression du côté d'Augeride. Elle n'a pas beaucoup couru cette année, mélangée aux autres, donc on n'a pas trop de repères. Elle a beaucoup couru chez elle, mais à chaque fois qu'elle a couru aux Europes et quand elle a couru avec les autres, elle était pas loin et elle était sur la boîte à chaque fois. Et là, chez elle, alors chez elle, il y a deux trucs, soit elle est transcendée parce qu'elle est dans le pays, soit elle fait caca culotte. Mais voilà, ce qu'on peut peut-être un peu lui souhaiter, parce qu'on aimerait bien ramener le titre, on va être un petit peu chauvin, hein, mais voilà, après dans les autres catégories, chez les espoirs, j'ai envie de penser aussi à Rémi Lelandais, pour les espoirs, hein. Alors oui, chez les espoirs, on voit les Belges.
Ah, les Belges.
Attention à Del Grosso quand même. Hein.
Chez les espoirs, il y a cinq coureurs qui dominent.
Mais tu penses vraiment, Olivier, que vous allez pouvoir faire quelque chose contre Del Grosso ?
Oui.
Oh, allez, oui. Allez, allez, sois honnête.
Ben, écoute, il y a deux semaines, c'était le cas. La semaine passée, Verstring a complètement foiré. Il est passé à côté de sa course, mais la semaine avant, il l'avait dominé, donc c'est possible. Écoute, la semaine d'avant, il y a 5 coureurs, hein, chez les espoirs qui dominent. Il y a les 3 Belges, Verstring, Michiels et Wart Huibs, et alors il y a Del Grosso et Rémi. Donc voilà, ça, ce sont les 5 plus forts chez les espoirs, et le podium va se jouer entre ces 5-là. Maintenant, dans quel ordre, c'est vraiment dur à dire, mais allez, on pourrait dire quand même qu'il y a 2 favoris, qui sont Verstring et Del Grosso, avec un petit peu plus Del Grosso, et un outsider que je mettrais, ce serait notre Rémi. Mais donc voilà.
Mais après, moi, je pense que niveau français, on a tous les yeux rivés sur Rémi parce qu'il a été chercher une belle médaille au championnat d'Europe. Mais attention, je pense qu'on aura une très belle équipe de France chez les espoirs. Je pense à Martin Gros-Lambert qui a complètement loupé son championnat de France, qui revient bien, qui a fait 9 Augeride. C'est un circuit, franchement, c'est sûr, ça lui correspond. Attention au champion de France, Nathan Bomnel, c'est un passeur de planche de fou. Et lui, il a rien à perdre sur cette course. Pour moi, on a quand même 3 très très belles cartes pour l'équipe de France, pour le titre.
Bisio aussi, hein.
Ouais, le petit Bisio. Bon, je pense que Léo, voilà, il est peut-être un peu tendre, mais effectivement, Léo peut raisonnablement aller chercher une très très belle place, pourquoi pas. Puis lui va tenter aussi, hein. Mais voilà, il faudra être bien évidemment bien placé. Moi, pour moi, celui qui, à mon sens, va faire un beau championnat du monde, c'est Verstringe. Les peu de fois où en élite, il a pris part à la course élite sur les X2O et autres, c'était l'un des rares à pouvoir suivre les meilleures élites. Après, c'est des courses différentes quand tu es dans ta catégorie, mais on sait aussi qu'avec Bart Wellens, quand il avait préparé les championnats du monde de Louisville, il s'était fait tréfler, mais c'était lui qui était le plus fort. Donc, je pense que sur Tabor, il voudra franchement le titre. Moi, c'est lui. Voilà, si je dois mettre une petite piécette, je le mets sur Emile Verstringe.
Et qui était le plus fort à Zeldam, Steve?
Mais va te faire!
On va parler un peu des élites, si vous voulez, avec Venturini. Je crois que Steve, tu as des gros espoirs pour Clément Venturini, au moins un top 5. Et il faut qu'on parle aussi des espoirs d'âme, parce qu'il y en a une qui est passée complètement à côté de sa course. Ça peut arriver à Augeride. C'est la championne de France, Hélène Clausel. En revanche, on a vu une bien, bien meilleure Amandine Fouquenet qui s'est battue avec Alvarado, notamment.
Oui, attends, pour les élites, pour Clément Venturini, moi, je le vois faire podium. Je le vois faire podium parce qu'on en a parlé au tout début de ce space et tu pourras reprendre nos propos avec mon ami Tonio. On est persuadé que Van Der Poel va faire le départ et que derrière, ça va être une course tactique. Clément, c'est un chien fou, c'est un tueur. Il a accentué toute sa préparation pour le championnat du monde. Je pense que techniquement, il est au point. Ouais, je mise gros, mais je mise podium de Ventu. Mais je suis pas franchouillard pour autant.
il était pas mal comme du côté d'Augeride. Un peu à contre-coup tout le temps.
Bah, parce qu'il a pas... dommage.
Non, mais pas de sa faute, hein. Dommage pour lui parce que j'aurais bien voulu voir à chaque fois qu'il a réussi à rentrer, ça ressacochait devant, donc il prenait le coup d'élastique. Mais il était pas mal du côté de d'Augeride, il était pas mal aussi. Non, il est bien monté en puissance. Là, j'ai pas les lignes sous les yeux, mais ça va du coup se resserrer un petit peu quand même comparé aux Coupes du Monde parce qu'il y a quand même moins de prétendants, donc il devrait pas partir trop loin. Le top 3, j'aimerais beaucoup.
C'est ambitieux quand même. Hein.
Il faut miser gros pour gagner.
Hey, Jérémy, un jour de championnat. je veux pas te répéter à chaque fois.
Tout peut arriver. À ce moment-là, on peut dire tout et n'importe quoi.
Ah, mais tu peux dire tout et n'importe quoi.
tu vas avoir 60 mecs au départ, tu en auras 59 qui vont faire 2, 3 matchs, 1, 4, 5, mais tu en auras qui sont champions du monde et ça peut être n'importe lequel. Un jour de championnat, ouais. Tout peut se passer. Je te survends peut-être un peu le truc, mais.
Bah, un peu, ouais.
Non, non, mais le podium, c'est ambitieux, c'est sûr, mais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça se regarde derrière, que les Belges se roulent un peu dessus, qu'ils ne veulent pas se découvrir, qu'il est là, qu'il est bien placé, il va falloir être très très bien placé. Par contre, attention, parce que comme l'a dit Gilou quand même, il y a pas mal de virages du côté de Tabor, et quand ça va redescendre là-bas, là, pour revenir chercher la ligne d'arrivée en bas, rappelez-vous cet enchaînement, quand on redescend derrière la grande tente et tout, ça va très très vite, donc le placement il va être très important, très très haut. Dès le haut du circuit, il faudra être placé, parce qu'après, il ne pourra plus doubler. Ça va être de prendre des risques et sur un championnat du monde, tout le monde va débrancher. Donc le placement va être très important, mais pourquoi pas? Moi, je dirais pas pour moi jusqu'au top 3, mais top 5, pour moi, c'est très envisageable.
Oui, oui, ça, je suis d'accord. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas la forme de Venturini, hein, qu'on soit clair là-dessus. C'est plus quand je vois ce que font les Néerlandais depuis quelques temps, Nivenhuis, avec évidemment Renard, Van der Poel, je le compte même pas. Et puis Thibaut Nys, il a été quand même impressionnant. J'ai l'impression qu'il monte en puissance, ouais, et qu'il va être pas prêt pour la semaine prochaine.
T'as peut-être un mec ou deux qui va passer à côté.
Si un mec ou deux, il a Tizerbit et Venturini aussi, hein.
Jour de championnat.
Bah, on te le dit
à chaque fois, jour de championnat.
Non, mais d'accord, jour de championnat, tu le dis à chaque fois. Olivier, un jour, une fois en 10 ans, il y en a un qui va gagner.
Jour de championnat, Olivier.
Jour de championnat. Et d'ailleurs, je vais vous dire ce qui se dit dans la presse. Donc, Iserbit et Van Tournout ont un petit peu parlé de la course. Ils ont parlé aussi, selon eux, de l'erreur qu'a commise Thibaut Nys dimanche. Pour eux, ils n'auraient pas dû prendre de relais à Mathieu, il aurait dû le laisser faire. Et d'ailleurs, Nys a déclaré par la suite que effectivement, c'était très stupide. Et donc, ils sont en train de voir pour une tactique de ne pas courir contre Mathieu, mais plutôt de faire des médailles. Parce qu'ils ont peur qu'il arrive comme Thibaut, ben, qu'on joue pour la gagne, et puis finalement, dans le dernier tour, eh ben, on perd de tout. Donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit. Alors, je les comprends, mais je suis quand même un petit peu déçu quand même. Je pense que ça manque d'ambition, ou alors ils n'osent pas le dire, c'est de la com. Mais donc voilà, dans l'équipe belge, on veut les deuxième et troisième places. C'est ce qui se dit dans la presse. Voilà.
Et puis attention, hein, si ça arrive groupé, comme on pense que ça peut être groupé derrière Van der Poel, faudra... Ouais, mais Ventus au sprint, c'est pas une planche, hein.
Donc, ah puis jour de championnat, jour de championnat. Puis,
donc faudra bien sortir du dernier grand virage gauche, mais c'est pas une planche et les Nevenhuis, les Venturini et autres, ils les toquent, hein, largement en sprint. Hein. Attention.
Donc, je veux plus entendre une seule fois jour de championnat d'ici la fin du podcast. On a compris.
Alors, en même temps, on parle du jour du championnat du monde. Donc,
Après, je vais vous dire, j'ai pris le Conduc qui est censé être exceptionnel, selon vos dires, et on est à 12 minutes de la fin théorique de l'émission et il n'y a plus de questions. Donc, je ne sais pas de quoi on va bien pouvoir parler.
Mais on aurait pu développer. Enfin, moi, j'aurais bien voulu développer avec Tonio, on en a parlé un petit peu en avant. Justement, qu'est-ce qui peut se passer dans ta tête le jour du championnat? Parce que.
Et il peut tout se passer de toute façon, tu le sais comme moi.
Mais bien sûr que oui, parce qu'en plus, bah, tu le disais tout à l'heure avec la petite junior, quand on parle et on rigole avec ça, ce fameux cacamou et tout, il y a des coureurs qui ont du mal à résister à cette pression, qui ont du mal. Et effectivement, là où je reprends un petit peu les propos de Thibaut Nys, je pense qu'effectivement, c'est manquer d'ambition, mais c'est aussi être prudent et aussi se dire que ça sert à rien d'annoncer la couleur, parce que si le jour du championnat, tu te loupes, bah, t'as aussi tout le monde qui te tombe dessus, t'as ton équipe, t'as ton entraîneur, et puis il y a ton ego perso. Donc, non, je pense qu'effectivement, il faut essayer de prudent. Et puis, comme on l'a dit aussi en début de ce podcast, malheureusement, ça a toujours été un championnat du monde. On se rappelle toujours du podium. Quand tu fais quatrième, il n'y a que tes potes et ta grand-mère qui s'en rappellent. Donc, forcément, deuxième ou troisième, c'est des médailles à aller chercher. Hein, Jérémy?
Ouais, bah surtout quand tu fais exprès de faire quatrième, quand tu fais exprès de jouer la carte de ton coéquipier, quoi.
Bah quand tu fais les cassures, bah c'est à 22 ans, ça compte.
Ouais. Mais bravo quand même pour tout ce que tu as fait durant ta carrière.
Merci.
Bon, je vous propose alors les paris. Je sais pas ce que tu voulais faire, Anthony. Est-ce que tu voulais pas plutôt les faire à l'écrit demain, c'est ça?
Ouais,
tu voulais
proposer des paris
pour toutes les catégories.
Bah ouais, faire un petit truc avec une petite trame avec toutes les catégories, puis qu'on fasse un petit post sur le Twitter de Saderail, et puis que chacun fasse un petit peu son truc en dessous, que tout le monde nous les donne un peu, qu'on fasse un petit concours de pronos avec tout le monde.
Très drôle, j'aime beaucoup
ça. Le championnat d'Europe, c'est ça.
Il me semble qu'on avait fait, exactement. Je ne sais plus si on l'avait fait. Bah, peut-être, ouais, c'est bien.
Et possible, qu'est-ce qu'on a à gagner ? Qu'est-ce qu'on a à gagner, Montonio ?
Bah, je ne sais pas.
Une casquette de Cross Team Legend, je crois.
J'en ai plus. Tu m'as tout pris.
C'est vrai. Moi, j'ai eu Team Chazal. Hein. J'ai pas vraiment eu Cross Team Legend.
T'as eu le vert d'il y a 3 ans. Ouais, t'as 4 ans, même.
J'ai eu la Banesto, moi. J'ai eu la Banesto.
Tonio, tu m'enverras tes tailles, je t'enverrai un pactage.
Ah, mais est-ce comme d'habitude, hein, j'ai pas. Ah, j'ai pris un peu.
T'enverras Olivier aussi parce qu'il a bien bossé. Aujourd'hui, c'est celui qui a le mieux préparé le podcast.
Alors, moi, petite question, Olivier, quand même. Est-ce qu'il y a eu des déclarations un petit peu fracassantes par rapport aux dames, par rapport aux espoirs, par rapport à d'autres catégories, justement, parce qu'on a beaucoup parlé de Thibaut Nice, mais est-ce qu'il y a eu des déclarations autres?
Non, à part celle de Van Empel, je n'ai absolument rien vu. Et je pense que dans la presse belge, tout le monde sait que ça va être un podium 100% néerlandais. Donc, tu sais,
Niewoud, il n'y a pas eu de déclaration ces derniers jours sur Woot et ce contrat Red Bull qu'on lui tend les mains avec Bora.
Avec Bora, écoute, non. Enfin, moi, je n'ai rien vu de Woot, mais bon, moi, je n'y crois pas trop. Donc.
Voilà. En tout cas, ce qui est certain, et Tonio, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça reste quand même là aujourd'hui très dommage que Van Aert ne décide pas de se prendre le départ de ces championnats du monde.
Non, mais on a fait mille fois le débat. Mille fois.
Non, mais t'as faim, tu vas aller bouffer ou quoi, toi?
Non, mais là,
comme l'autre, tu veux pas dire. L'autre, il se couche à 2h du mat et il va bouffer à 10h et là, il crève la dalle.
Tu veux pallier la faiblesse abyssale de ton conduit qu'en inventant des questions. Sauf que celle-ci, ça fait 3 mois qu'on se la pose. Donc, t'en trouves d'autres. Si tu veux aller jusqu'à 20h, t'en trouves d'autres. Mais tu nous fais pas.
C'est surtout dommage parce que jour de championnat. Tout peut arriver. Et je pense que Wood, s'il avait été là, jour de championnat.
Non, mais là où tu as raison par rapport au jour de championnat, c'est que l'année dernière, personne n'aurait pu imaginer que Molen Graaf ne fasse que 9e. L'année d'avant, personne n'aurait pu imaginer qu'Averding se passe à côté de sa course. Alors, c'est vrai qu'ils ont connu des mésaventures, mais quand tu tombes, c'est aussi que des fois, tu as
trop la pancarte. Pour aussi, hein, qui aurait pu imaginer ça l'année dernière,
franchement. Tout le monde, sauf les groupies comme toi.
Quelle mauvaise foi que tu as.
Et on n'a pas parlé des espoirs d'âme, justement. Tu voulais peut-être revenir là-dessus par rapport aux conduites que j'avais fait.
Exactement. Il n'y avait pas les espoirs d'âme, mais on peut les rajouter une extrémité.
Merci, Tonio.
Regarde. Il y avait une ligne.
Merci, Tonio.
Je la cherche.
Merci.
Il n'y a pas.
Est-ce que Vas est dans les espoirs?
Non. Absolument pas. Donc, il n'y a pas de ligne.
Si, donc, ça va se jouer entre Bachstedt et Léonie Benveld.
Et Schreiber aussi. Ouais, c'est la joueuse de Steve pour ce week-end, Schreiber.
Ouais. Non, mais il y a une vraie.
On peut peut-être donner quand même nos pronos vite fait, non? Ou on les mettra tous à l'écrit?
Bah vas-y, juste le temps de rappeler les pronos de la semaine dernière. Anthony, t'étais vraiment pas loin du braquage parce que t'avais joué T3 de Brandt et T3 de Nice. Et Nice a été battu à la photo finish par Renard pour la 3e place. Je pense qu'il se rappelait de ton pronostic. Il a voulu croire que Nice l'avait sauté sur la ligne. Mais tu vois,
j'étais sur une bonne semaine, quoi qu'il arrive. Donc, ça me lance une belle semaine, tu vois.
T'as quand même perdu. Donc, vas-y, essaye de te racheter.
C'est ça, voilà, les amis.
Là, je vais peut-être pas me faire des amis, du coup. Mais bon, alors, pour le relais, moi, je vais dire la France. Par contre, pour les juniors dames, je vais mettre la petite tchèque, là. Schladonova, je le prononce bien. Les U23 hommes, je vais mettre Del Grosso. Les femmes, bien évidemment, Van Empel. Les U19 hommes, Sparfel. Les U23 dames, Bachstedt. Et les hommes, Van Der Poel.
Très bien. Steve,
mettra ça à l'écrit.
Steve, t'as préparé toi aussi.
Oui, on l'a vu. Tonio, attends, je te l'ai envoyé à toi. Je reprends mon WhatsApp.
Il y a tellement de saucisses depuis qu'il faut remonter de 50 messages, à mon avis.
Non.
T'as pas en tête comme ça tes pronos.
Si, la France, ça c'est sûr.
T'avais la France. Par contre, t'avais mis Géry, toi.
Ah, la petite Géry chez les juniors.
Après, t'avais mis Verstringer, Van Empel, Sparfel. Schreiber et Van Der Poel. Tu vois, je me rappelle de tes pronos.
Non, Elite Homme, Elite Homme.
Non, c'est Nicolas.
Anthony Colas, France.
Ah, c'est vrai. Quel enfoiré, celui-là.
Bon, Olivier, vas-y, le mot de la fin, écoute, il est pour toi.
Moi, je serai sur place. Hein, si vraiment il y a un désistement en équipe de France, j'envoie un message à François Travailleur ce soir. Ouais. Je vais même me raser la patte avant de partir. Et bah, écoute, moi, s'il y a une combarde à ma taille, je trouve un ou deux vélos et... Et feu.
On compte sur toi, Tonio.
Okay. Olivier, ramène un peu de sérieux avec tes pronos, s'il te plaît.
Le relais pour la Belgique. Désolé. Ouais,
d'accord. Du sérieux, on a demandé,
non,
Olivier.
Non, mais t'as déjà perdu.
Non, là, t'es pas sérieux.
Olivier, merde.
Olivier.
Le relais chez les juniors, je vais mettre chez les deux, bah, 100% France. Sparfel et Géry. Sparfel, pourquoi? Parce que... Franchement, comme
tu
l'as dit, il y a une équipe de fous chez les juniors. Le collectif aussi peut absolument jouer. Donc pour moi, il n'y aura pas de grosse surprise. Le champion d'Europe, les deux champions d'Europe deviendront champions du monde. Chez les espoirs, c'est plus un souhait. Donc je voudrais que Verstring gagne, mais je pense bien que Del Grosso va quand même gagner. Mais bon, c'est un souhait. Chez les dames, je mettrai quand même Backstedt. Et chez les élites,
mouille-toi.
Je vais jouer. Je vais prendre un petit risque, mais je vais quand même jouer Brandt.
Ah.
Et chez les hommes, je vais mettre Van Der Poel, même si.
Alors, précision si pour Van Der Poel.
Qui est pas le blizzard, Céline. Pas la tempête de neige, mais voilà.
Ce que je vous propose, Anthony, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est que pour les élites hommes sur le concours qu'on va lancer demain.
Non, qu'on joue le.
Ceux qui jouent Van Der Poel donnent aussi le deuxième.
Ah bah oui, mais qu'on joue le podium alors. Le deuxième et la troisième place.
Alors ça, voilà, mettez le podium. On mettra
ouais,
le podium.
On fait ça, on va faire la. Tu fais la.
Sur les deux élites. Parce que même pour Van Empel, comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est moins. Ouais. Ouais, on peut faire ça, on peut jouer les places de 2-3 plutôt.
Allez, pas mal ça.
On peut, non, mais... on peut jouer
non, vainqueur.
On joue vainqueur. Non, on fait chez les dames et les hommes, on fait vainqueur sans Van Empel et vainqueur sans Van Der Poel.
Ouais, si vous voulez, mais s'il y a une surprise, on peut faire le podium en entier. On fait un 2-3 et comme ça, bon, c'est réglé.
Chacun fait sa sauce, mais que ça ressemble un peu à quelque chose.
Ouais, mais façon, on fera un modèle. On fera un modèle et tu seras le modèle.
De toute façon, comme il n'y a rien à gagner,
on ne sait pas, on va réfléchir.
La dotation, on va réfléchir. Il faudra que Steve fournisse parce que c'est lui le plus riche et c'est lui qui a le plus de maillots. Donc...
va te faire, enfoiré. Attends, je vais aller manifester avec les agriculteurs. C'est bon.
Bon, bah merci,
bon, les gars,
rendez-vous demain pour vos pronos et surtout Steve. De quoi?
Le quiz.
Oui,
le quiz, il est en montage, il est en montage. Je pense que le teaser sera publié demain et que le quiz ce sera après-demain ou samedi, mais ce sera avant la fin de semaine, ça c'est sûr.
Il me tarde.
Ouais, moi aussi, il me tarde, même si j'ai déjà vu des extraits.
Vous êtes pas prêts.
Dire que c'est exceptionnel et qu'on s'est tapé des bonnes barres. Steve, le programme de sur Eurosport aussi, parce que tu vas commenter toutes les courses, rappelle-nous rapidement. Tu seras exactement. Avec Antoine Besson pour les juniors et les espoirs, et tu seras avec Louis Pierre qui nous a écouté une bonne partie de la soirée pour les deux épreuves élites.
Oui, alors déjà, il y a la Loulatour jusqu'à vendredi. C'est David Moncoutier qui prendra le relais samedi de la Loulatour. Mais sinon, le programme, c'est très simple. C'est 11h samedi, 12h35 et 14h35. Idem pour le dimanche. Et puis, donc, il y aura les 6 épreuves, les juniors, les espoirs et les élites, hommes et femmes à chaque fois.
Et pas les relais, alors
c'est tout. Non, les relais, malheureusement, il n'y a même pas de diffusion de télé.
Non, mais c'est cool quand même qu'il y ait toutes les épreuves parce que les gens réclamaient souvent. Et franchement, c'est un gros coup de chapeau. Et merci Eurosport.
Comme à chaque fois, comme pour les Europes.
En revanche, sur les Europes, il n'y a pas les juniors.
Ouais, mais là il y aura.
Deux, trois fois.
Oui, ouais, pardon. Pas.
En revanche, ce sera uniquement les juniors et les espoirs sur les plateformes digitales.
Oui, mais bon.
Et bien sûr, sur le linéaire, en plus pour les élites. Mais je vous invite à prendre un abonnement. Je ne suis pas primé là-dessus, comme d'habitude, vous le savez.
Mais merci à tout le monde et merci à Anthony.
Et moi, je vous invite tous, à tous ceux qui font le déplacement du côté de Tabor, s'il y a des Français qui nous écoutent, on se rejoint dans le plus grand chapiteau que vous trouvez. Et puis on se trinquera une petite gueule.
Surtout, Tonio, que là-bas, franchement, la binouse,
elle est bonne,
non,
c'est vraiment
pas cher. Ne le suivez pas, messieurs. Si. Ne suivez pas Anthony Colas. Allez, regardez tranquillement.
N'hésitez pas, tous les bienvenus.
Voilà.
Ah ouais, allez. Mais grave.
Bonne soirée à tous et merci beaucoup à Elodie. Petite précision, il y aura Elodie qui fera une petite apparition dans le quiz aussi, en guest star. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir ça, ce sera cette fin de semaine. Je vous souhaite un agréable week-end, de très bons championnats du monde. Et la semaine prochaine, on sera normalement, Steve, avec Gilles Mottier qui participera au championnat du monde pour débriefer tout ce qui sera passé.
C'est ça, jour de championnat, il a décidé d'en parler et c'est magnifique.
Magnifique.
Je raccroche. Bye. Je raccroche.
Ciao, ciao. Ciao. Bye. Salut, salut.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.